frères, passionnés aussi de radiesthésie, l'abbé Bouly, ils arrivent à convaincre le conseiller général du canton, monsieur Georges de Boisgelin, qui achète le fameux terrain où dormirait ce fameux trésor d'or noir. Et c'est parti, voilà l'installation d'un dérive de 20 mètres de hauteur et le forage commence. Arrivé à une profondeur de 300 mètres, un bruit sourd, suivi d'un grondement, et soudain, un immense geyser, mais hélas, pas noir, blanc, de l'eau. Déçu mais opiniâtre, l'abbé décide de continuer le forage. On arrive à 904 mètres, et ce fut un énorme geyser qui jaillit, toujours de couleur blanche. L'opération devenait de plus en plus coûteuse, alors monsieur de Boisgelin décida d'arrêter les travaux. Une source de plus, me direz-vous. Oui, sauf que cette eau est chaude. Oui, oui, à 28 degrés, de jour comme de nuit, été comme hiver. Et sa composition en ammoniac et en gaz carbonique lui confère des propriétés dermatologiques comme l'eczéma. Le terrain fut racheté en 1978 par la commune d'Incarville aux héritiers de M. Boisgelin, qui voulait en faire un établissement thermal, mais donc trop cher. Il a fallu arrêter. C'est donc devenu un lieu de curiosité. La source est condamnée, mais il y a une buse qui permet quand même d'écouler le flux continu vers la rivière toute proche. Donc, allez-y, c'est pas très loin. Même en hiver, vous déchaussez et vous trempez vos pieds dans de l'eau à 28 degrés. Et maintenant, je vais passer la parole à Michel. Michel, ta chronique, y a-t-il des sources miraculeuses ?
Ah ben, mesdames, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer, oui. Et le dire, c'est bien, mais le fer, ben, c'est mieux. Alors l'alcool, non. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval une conférence contre l'alcool ips de l'alcool. Alors, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Non, dans l'eau ferrugineuse, c'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer à repasser, l'eau. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Et le fer a dissous, c'est pas cher. Alors, pourquoi boire cet alcool qui vous ruine la santé et le portefeuille ? Alors, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus, et vous le sentez quand vous en buvez. Buvez, ça pique. Alors que le verre solitaire, le fer est salutaire, voilà. D'ailleurs, ne dit pas-t-on une santé de fer, un homme de fer, un chemin de fer, un mammifère. Alors, suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Après l'eau ferrugineuse, pas la guerre du feu, mais la guerre de l'eau par Michel.
Alors, on imagine souvent les guerres comme un conflit lointain pour du pétrole, par exemple, ou des territoires. Mais aujourd'hui, une question se pose. Et si l'eau venait à manquer, est-ce qu'elle ne deviendrait pas, elle, une source majeure de conflit ? L'eau, c'est vrai, elle est partout. Et pourtant, l'eau douce, accessible, est extrêmement limitée. Elle représente 2,5% du volume total de l'eau sur Terre. Et en plus, elle se raréfie. Aujourd'hui, le dérèglement climatique bouleverse complètement le cycle de l'eau. sécheresse plus longue, pluie plus violente mais moins régulière, nappe phréatique qui peine à se recharger. En France, la sécheresse de 2022 a marqué un tournant. 93 départements ont été soumis à des restrictions d'eau au plus fort de la crise. Et en 2023, la situation restait tendue. 62% des nappes phréatiques étaient encore sous la normale de saison en été. Le GIEC alerte depuis des années. Ces phénomènes vont s'intensifier. Et derrière ces chiffres, une réalité simple, moins d'eau disponible pour plus de besoins. Alors forcément, quand une ressource vitale se raréfie, elle devient stratégique. Prenons le Nil. Ce fleuve fait vivre des millions de personnes, notamment en Égypte. Mais en amont, l'Éthiopie a construit un immense barrage. Résultat, des tensions diplomatiques, des inquiétudes, chacun redoute de manquer. Même chose autour du Tigre de l'Euphrate, où plusieurs pays dépendent des mêmes eaux. Ici, l'eau n'est plus seulement une ressource, c'est une affaire de survie et donc de pouvoir. La question devient donc politique. Qui contrôle l'eau contrôle une partie de l'avenir. On pourrait croire que ces conflits sont lointains, presque abstraits. Mais en réalité, ils sont déjà là, chez nous. Les débats autour des réserves d'eau agricole, les fameuses méga-bassines, ont donné lieu à des affrontements, notamment à Sainte-Soline. Derrière ces tensions, une question profondément politique. Qui a le droit d'utiliser l'eau et pourquoi faire ? Agriculture, industrie, usage domestique, l'eau devient un arbitrage. Et ces arbitrages, forcément, créent des tensions. Alors, et nous, en Normandie ? Eh bien, nous sommes aussi touchés. Ces dernières années, des épisodes de sécheresse ont surpris par leur intensité. Des restrictions d'eau ont été mises en place en plein été, parfois plus tôt que prévu. Des sols trop secs, des rivières fragilisées, une situation qu'on n'associait pas forcément à une région réputée humide. Et c'est peut-être ça le plus frappant, le changement est déjà visible, même là où on ne l'attendait pas. Et ici à Évreux, on n'est pas épargné non plus. En 2022-2023, le secteur d'Évreux affichait encore un déficit de pluie d'environ moins 24% par rapport au normal. Résultat, dès mars 2023, la préfecture de l'Eure a pris des arrêtés de restriction de l'eau. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Interdiction d'arroser à certaines heures, limitation du lavage des voitures, réduction de l'irrigation agricole. Autre chiffre parlant, sur l'agglomération, plus de 7 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année. Donc la pression sur la ressource est bien réelle. Un petit exemple concret, prenons le cas d'un agriculteur de l'Eure. L'été 2022, avec la sécheresse, il a dû faire un choix, irriguer ou perdre une partie de sa récolte. Mais les restrictions sont tombées, impossible d'arroser comme avant. Résultat, des rendements en baisse, des cultures parfois abandonnées et une adaptation forcée. Aujourd'hui, certains agriculteurs du secteur expliquent qu'ils changent déjà leurs pratiques. Ils choisissent des cultures moins gourmandes en eau. Par exemple, ils ne cultivent plus le maïs. Ils se résolvent à une irrigation plus ciblée. Et ils renoncent même parfois à certaines productions. Ce n'est pas une guerre, mais c'est déjà une transformation profonde. Heureusement, des réponses émergent. On peut réutiliser les eaux usées. Dans plusieurs villes, elles servent déjà à arroser les espaces verts et à alimenter les terrains de sport. La récupération de l'eau de pluie est de plus en plus encouragée, y compris chez les particuliers. L'agriculture s'adapte, il y a de nouvelles cultures, on pratique l'irrigation goutte à goutte. L'urbanisme aussi devient plus intelligent. On végétalise les cours, par exemple, des établissements scolaires, plutôt que de laisser du bitume. Et on limite le gaspillage. Autrement dit, on peut agir et on commence déjà à le faire. Parce que l'eau, c'est la vie et la vie est née dans l'eau. Et quand une ressource vitale devient rare, elle nous oblige à faire des choix. Des choix politiques, des choix collectifs, mais aussi des choix individuels. Alors, une question pour vous se pose, auditeur. Seriez-vous prêt concrètement à changer vos habitudes pour préserver l'eau ?
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer. Ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux. On suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Venons d'écouter Michel Jonas qui chantait Les vacances au bord de la mer. Et nous allons suivre maintenant la deuxième partie du reportage sur la pisciculture.
Alors justement, le fait d'avoir obtenu ce prix et de cette médaille d'or, ça doit vous donner une exigence encore plus importante.
En fait, ce qu'il faut, c'est perdurer sur le temps. Donc c'est toujours trouver de rester constant sur notre production, sur notre façon de faire, pour que notre produit soit toujours le même et qu'il soit toujours autant apprécié de nos clients.
Alors nous, c'est vrai, évidemment, notre émission, c'est sur l'eau. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, par exemple, par rapport à l'environnement qui entoure votre exploitation? Notamment, est-ce qu'il y a beaucoup de cultures? Est-ce qu'il y a de l'usage d'engrais?
Vous posiez la question tout à l'heure pour l'environnement de l'eau. On a quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps, qui vient nous voir pour justement, parce qu'on avait quelques algues justement dans le petit étang là-bas, voir un peu si tout se passe bien, parce que oui, selon les agriculteurs, agriculteurs, on sait bien que malheureusement, par rapport à ce qu'on utilise à mettre dans les champs, ça peut arriver. Maintenant, ça fait des dizaines d'années que la pisciculture elle est là, on n'y a jamais eu de soucis, et donc on n'est pas inquiet.
Et moi j'ai envie, on va arriver sur la fin de notre interview, l'évolution de la pisciculture dans les prochaines années, vers quoi vous voulez vous diriger?
Alors l'évolution de la pisciculture, il y a qu'on arrive à perdurer sur le temps, hein, parce que l'État nous aide pas beaucoup, hein, sur toutes les charges, les normes, etc. qui existent aujourd'hui, être artisan c'est très compliqué, donc perdurer sur le temps sur ça, donc continuer à voir que notre boutique fonctionne bien, parce qu'aujourd'hui c'est la transformation qui va nous faire perdurer plus que la pêche, parce que sur la pêche ça devient de plus en plus compliqué d'en vivre, et on a le projet d'ici 2 ans de créer une serre aquaponique, donc je sais pas ce que vous savez, mais c'est de faire pousser des végétaux grâce aux nutriments des poissons qui y a dans l'eau, et donc ça se créera juste en face de chez nous là, dans le pré en face, où on pourra vendre un peu des produits, enfin des fruits et des légumes, et puis développer la deuxième développement, c'est vraiment développer la base restauration qu'on a au bord de l'étang. Mais voilà, donc ça va se faire petit à petit.
Où est-ce qu'on peut trouver vos produits, dans quel magasin?
Alors pour l'instant on a quelques revendeurs mais pas beaucoup, donc évidemment chez nous on a le Plessis Grouan, on a la Heunière, on a le Potager d'Anne, qu'est-ce qu'on a d'autre,
est-ce que vous faites par exemple les expositions comme la Fête Normande, les choses comme ça, les marchés de Noël?
Alors on fait quelques marchés de Noël, on fait quelques salons, on fait des salons à Passy, à Évreux, entre autres avec le Lions Club ou le Rotary Club. On fait 2 ou 3 marchés de Noël.
Enfin, disons que tout est tourné autour de la nature. Hein. Vous êtes vraiment. Mais vous n'avez pas de culture bio, en fin de compte, vous n'êtes pas dans le bio.
Pas dans le bio.
Et le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en mot de la fin, comment d'abord, s'il y a une chose qu'on a oublié de vous poser comme question, on peut le dire en mot de la fin, c'est quelles ont été vos motivations pour reprendre.
Rediffusion d'une émission de Principe Actif.
L'ambition?
Non, c'est quelles sont les motivations pour reprendre la pisciculture? C'est en fait déjà connaître avec qui on s'est associé, donc on se connaît tous les trois. On a chacun nos avantages et nos inconvénients,
vos compétences.
Voilà, nos compétences personnelles, pardon, j'avais du mal. La motivation c'est que c'est aussi pas avoir de patron au-dessus, on est là tous les trois, on sait ce qu'on a à faire, et du coup on avance ensemble du mieux possible, et c'est faire découvrir aux gens un modèle qui fonctionne, de proposer des poissons qui sont de bonne qualité, dans une eau hyper clair, de très bonne qualité, et puis c'est on a encore la possibilité aujourd'hui de le faire, d'avoir une idée de plaisir, de loisir, tout en gagnant sa vie, et c'est ça le plus important, je pense.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont quand même appris que vous avez eu le prix au Salon d'agriculture. Est-ce que vous voulez le donner à peu près les heures d'ouverture, comment ça marche?
Alors on est ouvert, donc la pisciculture donc de Fontaine-sous-Juy, on s'appelle les aquaculteurs du Rosay. Donc vous pouvez nous suivre soit sur Facebook, soit sur, on a un site également internet. On est ouvert du mercredi au dimanche. Sur la pêche, on est ouvert de 7h30 à 18h. Et sur la pisciculture elle-même, on est ouvert de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc du mercredi au dimanche.
Voilà, d'accord.
Merci, très bien. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Nous, il fait beau, on est dans un cadre magnifique. En tout cas, vous avez la chance de travailler dans ce coin-là. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Eh bien, je renouvelle aussi nos remerciements, comme l'a fait Gertrude, donc à Bruno de la pisciculture du Rosay à Fontaine-sous-Jouy. Alors moi, maintenant, je vais vous parler des eaux minérales, du scandale des eaux minérales. L'appellation eau minérale naturelle doit nous garantir des eaux non chimiquement traitées. Ces eaux nous sont proposées par de grandes marques,
par des régionales ou de distributeurs. Parmi toutes les marques présentes sur le marché, une a fait particulièrement parler d'elle, Perrier. Perrier aujourd'hui dans la tourmente pour avoir utilisé des filtres désinfectants suite à des contaminations bactériennes. Cette pratique, en théorie interdite, a été validée par arrêté préfectoral. On peut affirmer que les grandes marques qui vendent des eaux dites minérales naturelles ne le sont pas. Une jeune entreprise savoyarde, l'eau Bonneval, a d'ailleurs dénoncé ces pratiques et conteste les autorisations données par l'État. Des investigations de Radio France ont mis en lumière la multiplication des contaminations au sein de l'usine Perrier depuis le retrait progressif des filtres interdits utilisés depuis des années par Nestlé. Après de nouvelles contaminations, c'est environ 4 millions de bouteilles qui sont bloquées par les autorités sanitaires. Pourtant, les autorités de santé ont remis un rapport invitant le préfet à renouveler à Nestlé l'autorisation d'exploiter en eau minérale naturelle. L'UFC Que Choisir a saisi le tribunal de Nanterre pour demander une interdiction de commercialisation et la cessation des tromperies. Le groupe Nestlé est de nouveau convoqué devant la justice pour les forages de Contrex et Épars. Des déchets ont été illégalement abandonnés aux abords des sites d'embouteillage vosgiens. Ces dépôts sauvages ont contaminé aux microplastiques les terres et les nappes souterraines utilisées pour les eaux minérales. L'enquête judiciaire n'a pas établi de lien entre la pollution des nappes et la présence des microplastiques dans les bouteilles commercialisées. Un rapport d'enquête de l'OFB, Office français de la biodiversité, prouve que ces décharges ont contaminé les sols, mais aussi les nappes phréatiques dans lesquelles sont puisées les eaux utilisées pour produire les marques Contrex et Épars. Au parquet de Nancy, le ministère public accuse la société Nestlé d'avoir en connaissance de cause, géré sans agrément ces décharges. Par contre, la contamination des eaux, ils n'en ont pas parlé, de leur eau d'exploitation. On peut résumer en affirmant, Nestlé a traité illégalement ses eaux minérales, Nestlé a menti et caché ses pratiques, ces pratiques entraînent un risque pour la santé. Nestlé n'est pas la seule société concernée par ces pollutions. Des FAS, les polluants dits éternels, ont été détectés dans 3 sources d'eau en bouteille dans la Loire et en Ardèche, qui ont été fermées par leurs exploitants. Les 4 eaux minérales recommandées sur leur site gouvernemental sont Montroucou, Volvic, Cristalline, Vadviller. C'est vrai que ça fait peur, parce que toutes les autres eaux sont en circulation. En conclusion, aucune bouteille d'eau, que ce soit de source ou minérale, même de grandes marques, ne peut garantir une absence totale de microplastiques. Les études montrent que la contamination peut provenir du plastique, du bouchon, des conditions de stockage, du parcours industriel, mais aussi de la pollution de l'environnement. Donc moi, c'était un petit peu pas mon billet d'humeur, mais voilà, je vais laisser la place à Michel, qui j'espère a retrouvé son élocution normale, pour nous faire son billet d'humeur.
Mon billet d'humeur. Très, très, très mauvaise mon humeur. Hein. Quand j'ai regardé le JT de 20h, le vendredi 3 avril sur la 2, vous le constatiez tous, les carburants augmentent de 30 à 50 centimes. Et là, j'explique le télétrottoir. Les gens interviewés, on nous vole, l'État se sucre, les pétroliers font du beurre, ça je savais pas, il faut nous donner des sous. Eh bien, si vous comptez 20% de hausse sur un budget mensuel de 120 euros, 30 euros, 150 euros donc, ce n'est pas rien, mais c'est pas la fin du monde quand même. Et vous pensez, en les écoutant bien sûr, ça y est, la France ne vit plus, logique. Et pour étayer leurs propos, les journalistes repassent un reportage. Et vous avez bien sûr les gens qui rouspètent. Mais où sont-ils? Eh bien, ils sont à la boule en week-end et déclarent, je cite, « Le budget essence nous a coûté cher. On va réduire les frais de restaurant. » Eh bien, moi, je leur réponds, « Allez à la Turballe à 20 km, c'est moins cher. Vous trouverez du poisson frais et il y a même du vrai sel à côté. Et en cherchant bien, le parking est gratuit. » Et à la télé, ils sont comme nous. Tous les 3 minutes, il traite un nouveau sujet. Et là, dans la foulée, qu'est-ce que j'entends? Céline Dion et son retour à la scène. Et j'apprends 750 000 billets mis en prévente, de 100 à 400 euros. Et puis, on s'aperçoit que plusieurs millions de gens ont tenté d'en avoir, sans certitude, puisqu'il va y avoir un tirage au sort. Et là, plus question de vie chère et de fin de mois difficile. Chercher l'erreur, surtout quand on a vu la tête et la voiture des premiers plaignants, sûr que mathématiquement, ils font sûrement partie aussi pour tenter leur chance chez Céline Dion. Je ne juge pas, je constate. Voilà qui explique ma mauvaise humeur. Et qu'aussi, en plus, j'ai pris un an de plus, mais il n'y a pas que moi, ça me rassure, la totale. Et pour le mois prochain, je crois que ça ne va pas s'améliorer. N'attendez pas mieux. Quand je vois qu'à Évreux, les pires plaignants pour l'essence font un plein tous les trois mois. J'ai les noms. Arrête Michel, ils écoutent. Et ils vont même écouter MC et Secure Thermal.
Merci Michel, tu nous fais bien rire. L'eau est également utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Du bien-être qui utilise l'eau, mais pas de la même manière. Cure thermale ou thalassothérapie? Comment choisir? Vous avez peut-être hésité entre les deux. Et pourtant, des objectifs bien différents. Direction la terre, des cures thermales, on y vient pas seulement pour se relaxer, mais surtout se soigner, traiter une maladie. Les eaux utilisées sont naturellement riches en minéraux et oligo-éléments, soufre, calcium, magnésium, puisées directement à la source souterraine et ont des bienfaits très précis. Rhumatisme, troubles respiratoires, affection de la peau, fatigue chronique. Chaque eau a une composition unique, avec des effets différents suivant la station. La Bourboule, le Mont d'Or sont spécialisés dans les allergies respiratoires. Aix-les-Bains, Dax, pour ne citer que pour les rhumatismes. Entre le Cantal et l'Aubrac, Chaudaigre dispose d'eau les plus chaudes d'Europe. Pas moins de 32 sources y jaillissent, la plus célèbre, la source du Par, et ses 82 degrés. Une quarantaine de maisons sont chauffées ainsi, et le lavoir et l'église d'hiver. Ces eaux sont riches en sodium et en soufre, recommandées pour les douleurs articulaires et musculaires. Et comme nous parlait tout à l'heure Anne-Marie, insolite, à Incarville, je veux vous le rappeler, une source d'eau jaillit à 28 degrés, connue pour soigner l'eczéma et les maladies de peau, riche en soufre, ammoniac et gaz carbonique. Il est important de choisir une station dont les eaux correspondent le mieux à votre pathologie et bien se préparer à cette période de soins intensifs pour regagner une meilleure qualité de vie. Des villes thermales accueillent chaque année des milliers de curistes. Tout est encadré médicalement, prescrit par votre médecin pour une durée de 18 jours, généralement remboursée. Bain dans l'eau thermale, douche à jet, enveloppement de boue, kiné en piscine. L'eau est un élément indispensable en soins et une gestion constante est assurée de la part des soignants afin de garantir la sécurité et le bien-être du patient. À l'inverse, cap sur le littoral avec la thalassothérapie, l'eau de mer, les algues, l'air marin, tout est pensé pour se détendre le corps et l'esprit. Des destinations qui font penser aux vacances, séjour plaisir de quelques jours ou une semaine, selon votre budget bien sûr, sans prescription et non remboursé. On se ressource, se relasse, retrouve de l'énergie, mais ça reste temporaire, moins puissant qu'une cure thermale dont on ressent les bienfaits pendant plusieurs mois. Finalement, ce n'est pas vraiment un duel, le soin d'un côté, le bien-être de l'autre. À vous de choisir votre besoin. Douleur, problème de santé, fatigue chronique, cure thermale. Envie de se relaxer, décompresser, se faire plaisir, thalasso. Le principal dans tout ça, prenons soin de nous. Merci.
Singing in the rain, just singing. in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in